Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilles Darbribois.
Il est 23h35, Daniel Riolo est là, Thibaut Leplat est là, Julien Laurence est là et Johan Crochet est là également. On parle de la Ligue des Champions. Petit message informatif pour les abonnés de la revue de l'After. On est en pleine campagne de réabonnement, allez sur afterfoot.media. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y parce qu'il y a des offres intéressantes. Vous pouvez en plus commander la revue.
C'est bientôt.
Off fête des pères, exactement, moins 40%. Et je vous glisse également que si vous êtes déjà abonné, il faut checker vos coordonnées bancaires pour voir si tout est toujours OK. Voilà, afterfoot.media avec toujours évidemment l'édito de Thibaut. Et puis vous retrouvez à l'intérieur de la revue le meilleur de Johan Crochet et de Julien Laurence, comme tous les soirs dans l'After, évidemment. La question donc, et je vais demander d'abord à Julien et Johan pour une fois de répondre en premier. Guardiola en finale, on a parlé longuement de ses méthodes, son style, son impact sur le football mondial l'autre jour. Est-ce qu'on peut encore inventer des trucs? Lui, c'est une sorte d'inventeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a tout vu dans le foot? Est-ce que vous vous dites, tiens, finale de Ligue des Champions, c'est l'occasion de voir peut-être quelque chose de nouveau?
Ah non, là, justement, il ne faut pas qu'il invente. C'est pour ça que je veux, derrière ta question, je veux très vite qu'on...
Heureusement que je voulais qu'Yohan et Julien...
Là, il n'inventera pas. Je veux que Julien me parle tout de suite et le concret, c'est...
On trouve la deuxième ville du
Qu'on n'ait pas d'invention sur cette finale. On ne se prépare pas à ça, j'espère.
Non, je vais te rassurer, ce sera si Kyle Walker qui a eu quelques petits soucis au niveau du dos cette semaine est bien opérationnel. Après, il y a un choix à faire peut-être entre Akanji et Ake, s'il préfère un gaucher dans ce poste-là de défenseur central côté gauche, voire arrière-gauche parfois, ou il est très content avec Akanji. Pour le reste, ça devrait pas bouger, on aura Rodri encore et Stones au milieu, la plupart du temps en tout cas. Cette petite boîte qu'on avait expliquée longtemps, d'ailleurs peut-être copiée dans un sens, ou en tout cas imitée un petit peu sur ce que De Zerbi fait à Brighton, avec ensuite Gundogan et De Bruyne, et puis bien sûr Grealish, Bernardo Silva qui devrait quand même être préféré à Riyad Mahrez à droite, Haaland en pointe, et puis après Stone, Diaz et Ederson dans les buts, ça change pas. Mais sur les inventions dans le foot, pour moi il y a plein de choses qui ont aussi été tentés par le passé, qui reviendront après. On verra sûrement des choses qu'on avait peut-être vues dans le passé. Mais la transformation de Stones, sincèrement, autant par exemple un Cancelo qui entre un petit peu au milieu de terrain, comme on avait pu faire par exemple un Philippe Lahm, comme Guardiola, ce qu'il avait fait avec Lahm, c'était peut-être plus prévisible entre guillemets, je vais dire, même si c'est ça. À un moment, ce que Cancelo apportait à cette équipe de City était extraordinaire. Lui qui est quand même qu'un latéral. Autant Stones, sincèrement, personne ne l'a vu venir ici en Angleterre. Je pense que même des gens dans le staff de Pep Guardiola l'ont pas vu venir. Je pense que même John Stones lui-même ne l'a pas vu venir. C'est à un moment quelqu'un qui était même pas sûr de jouer défenseur central, donc dans son vrai poste, cette saison. Et de là, de le voir faire ces performances-là.
Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique? Je pose la question également à Johan, parce que je sais qu'il regarde tout ça, à nous tous ici. Finalement, si on n'a pas trop regardé de près ce qui s'est passé, t'es juste en train de nous dire qu'un défenseur central est monté d'un cran pour jouer au milieu du terrain. Tuchel avait essayé de faire ça avec Marquinhos, par exemple.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, Marquinhos, c'était pour venir en sentinelle. Le poste de sentinelle, comme ça, juste dans un milieu à trois, est beaucoup plus facile à jouer que le rôle qu'a Stones aujourd'hui dans un double pivot avec Rodri à ses côtés, où t'as besoin de beaucoup plus que simplement être un mec solide qui peut être bon techniquement.
Ouais, il faut avoir un pied, oui.
Oui, mais qui va jouer en sentinelle finalement comme tu jouerais en défense centrale. C'était un petit peu le rôle de Marquinhos. Tu vois, il pouvait pas.
Il ne pouvait pas que jouer en sentinelle. Il monte, il se met entre les intérieurs. Il est quasiment numéro 10 sur beaucoup de.
L'action, parfois, c'est assez rare dans le foot. Généralement,
les joueurs généralement quand ils changent de position, ils reculent. C'est très rare de les voir avancer, et encore plus avancer deux lignes quasiment.
Mais voilà, en fait, ça constitue une sorte de bloc de 4 au milieu qui permet aux latéraux d'être beaucoup plus haut.
Alors il y a plus de latéraux justement dans ce système-là. Voilà. Là, cette petite boîte que t'as Rodri et Stone sur la même ligne et puis devant eux Gundogan et De Bruyne sur la même ligne aussi. T'as tes trois défenseurs centraux derrière qui sont Akanji, Diaz et Kyle Walker. Stones parfois on l'a vu contre le Bayern, un petit peu moins contre le Real notamment lors du match retour, mais notamment quand l'adversaire récupère le ballon ou même sur les 6 mètres adverses, par exemple, il va revenir à hauteur de Ruben Diaz. T'auras une vraie défense à 4 qui sera alignée et à ce moment-là il sera redevenu un défenseur central. Et quand City récupérera le ballon, là, il montera d'un cran, effectivement, voire de deux crans, comme l'a dit Thibaut, pour venir au milieu de terrain, proposer une solution déjà au porteur du ballon, pour ensuite aider la défense derrière lui avec Rodri. Quand t'as un mur Rodri Stones devant toi, ne serait-ce que le gabarit déjà, mais en plus l'intelligence de jeu qui
produit. Est-ce que c'est pas surtout derrière ça le changement? Moi, je me souviens de Guardiola qui dans cette zone de du terrain était souvent un peu léger, il prenait des risques et d'ailleurs on se réfère au match dont tu parlais tout à l'heure où il avait joué 106. Là justement, il a beaucoup solidifié cette partie du terrain. Tu parles de mur quand les mecs arrivent et se fracassent sur Rodri et Stones qui sont excellents et qui semblent devoir libérer les autres qui sont dans le espèce de mouvement perpétuel, parce que est-ce que c'est pas ça finalement aussi, c'est le dézonage d'un petit peu tout le monde, quoi. Tu te retrouves avec des latéraux à droite à gauche, c'est pas ça aussi.
Alors, ça te permet
ou
déjà
avec un De Bruyne qui joue souvent plus en pointe que Haaland.
Tout l'enjeu, c'est toujours d'avoir c'est d'avoir une supériorité numérique au milieu de terrain. Donc quoi qu'il arrive, il voudra toujours avoir un joueur en plus au milieu de terrain, jusqu'à jouer parfois avec, qu'on l'a vu avec le Barça, avec 8-9 milieux de terrain. Il a, pour lui, il n'y a pas de problème.
Oui, Bernardo Silva est tout le temps là.
Tout l'enjeu est de surpeupler le milieu de terrain, toujours pour lui. Et ce qui est marrant dans cette affaire de généalogie de John Stones, il y a eu un article qu'a publié notre ami Diego Torres, qui est aussi dans la revue de la dernière revue, qui raconte un peu la généalogie de ce neuf et qui va demander notamment à Domenech Torrent, qui était son adjoint historique.
Avec Raymond,
ah oui, j'ai cru que Domenech, si on va demander un truc tactique à Domenech, j'ai dit, oula.
Et qui raconte en fait, je sais pas si tu l'as vu, Johan et Julien. Et en fait, Torrent, il raconte que parce qu'il y a beaucoup de discussions, savoir si en fait il recycle Miguel Angel Nadal comme faisait Cruyff en faisant changer de ligne, etc. Et en fait, Torrent répond en disant qu'en fait, il avait vu ça en 2010 contre Vålerenga, qui est un club suédois, dans un match amical.
Norvégien.
C'est le club qui est suédois, et parce qu'il y a, c'est l'attaquant qui est norvégien, mais le club est suédois.
Non, c'est la Norvège. Vålerenga, c'est norvégien.
Ouais, Vålerenga. Voilà, donc c'est norvégien. C'est un club norvégien, et l'entraîneur était Martin Andersen. Et il voit faire ça, Martin Andersen, avec son central, Stefan Strandberg. Qui fait ça, c'est-à-dire qui déplace, et pendant plusieurs jours, Torrent raconte que ça a obsédé en fait Guardiola d'avoir vu ça.
Il faisait quoi avec le central?
Il le
faisait monter d'un cran.
Il le faisait monter d'un cran jusqu'à le faire monter jusqu'au milieu des intérieurs, parce que le faire monter, ça, il l'avait déjà fait. C'est quelque chose qu'il faisait avec Piqué, ce qu'il appelle la conduction. C'est quelque chose qu'il faisait. Ce qu'il faisait pas, en revanche, c'est le faire participer dans le dernier tiers du terrain. Et ça, Martin Andersen, non, tu vois, c'est-à-dire le type est complètement.
Mais c'est incroyable.
Et du coup, il se dit. Lui, il réactive Miguel Angel Nadal en se disant, c'est vrai que Cruyff le faisait dans une certaine mesure, et donc moi je vais le refaire, et ça l'a obsédé, et ça date.
Il a pas inventé, hein. Ça avait été fait avant.
Ce que vous décrivez là, c'est un dézonage avec un mec qui quitte sa zone pour aller dans une zone où il n'est pas attendu pour surprendre l'adversaire, et j'aimerais. Parce que Johan est très au fait de ça, il est très intéressé par ça, et il a deux coachs qu'il aime beaucoup et qu'il a beaucoup regardé, De Zerbi et Thiago Motta. Cette année, Thiago Motta a fait des trucs assez fous avec Bologne, où les latéraux, parfois par exemple le latéral gauche, pouvaient se retrouver mais de l'autre côté du terrain. Alors ça, il y avait un risque, parce que ben, là où il aurait dû être, si le ballon était perdu, tu peux te dire s'il l'envoie là-bas, il n'y a plus personne, mais ça crée une confusion chez l'adversaire qui était assez stupéfiante, non?
Ouais, à Bologne, en fait, le rôle des latéraux était un peu spécial, parce que Cambiasso, qui est propriété de la Juve et d'ailleurs, qui est normalement le latéral gauche, en fin de saison a été plusieurs fois milieu relayeur dans un milieu formé avec ballon et pas sans ballon, et qui posait beaucoup de problèmes, de notamment face à les équipes qui jouent en 1-1, parce que lui, il était tellement dans une phase où il crée de l'incertitude chez l'adversaire, que finalement, quand l'adversaire était obligé de le serrer, etc., il crée beaucoup d'espace sur toute la partie gauche du terrain. Autre chose, poche, qui est autrichien, je crois, de mémoire, qui vient d'Offenheim, qui est le latéral droit, qui d'ailleurs est plutôt un défenseur central qu'un latéral droit, pour le coup. Et ben lui, il crée beaucoup de problèmes en venant dans les half space et en se rajoutant un petit peu au milieu de terrain. Il était plus un latéral qui rentre intérieur, un peu comme se faisait Cancelo à l'époque à City. Donc Mota, en fait, pour répondre à la question, moi je trouve que c'est difficile de réinventer quelque chose aujourd'hui. Comme disait Julien, en fait, il y a des cycles, il y a des modes, il y a des choses qu'on va repêcher dans le passé.
Et là, la mode, elle est un petit peu à ce que tu retrouves la volonté de mettre de la confusion chez l'autre en demandant à des joueurs d'aller dans des zones où ils ne devraient pas être, quoi.
Voilà, en fait, plus que... je pense que plus que d'inventer des choses, ce qui peut évoluer beaucoup, c'est l'interprétation des différents postes. Selon ce que tu veux mettre en place, selon ton modèle de jeu que tu veux imposer à l'adversaire. Je pense que c'est plus ça, parce que un latéral n'aura pas la même fonction chez un Guardiola, chez un De Zerbi, chez un, je sais pas moi, un Pioli, chez un... Donc ça, l'interprétation du rôle, on peut encore voir des choses différentes, mais sur les replacements de poste comme avec Stones, on a tellement vu de 10 passer en défense centrale, on a vu des 10 devenir des numéros 9, des ailiers devenir des numéros 9, des 10 devenir des ailiers, des 10 devenir des 6,
des 10 devenir des ailiers aussi.
On pense à Breitner, c'était un joueur qui démarrait latéral, qui terminait les actions.
Qui ça? Donc Paul Breitner. Je pense qu'en termes de poste, en fait,
pas le consultant.
En termes de joueurs, on a tout vu en fait sur des repositionnements. Par contre, l'interprétation du poste, elle peut être très différente. Même chose, un faux numéro 9, il y a plein de sortes de faux numéro 9. Comment tu fais jouer ton numéro 9? Quelle relation il entretient avec les autres joueurs d'attaque? En fait, faux numéro 9, ça veut tout et rien dire. Ça dépend ce que tu lui demandes. Et il y a plein d'interprétations possibles. Donc, je pense que c'est plus sur la disposition des joueurs ou l'utilisation des espaces même que sur
des changements structurels. Jouer sans 9, on en est revenu de ça.
Le plus fascinant, juste pour revenir sur City et Guardiola, c'est qu'il a tenté plein de choses cette saison, Guardiola. On a même vu Bernardo Silva arrière-gauche à un moment. Il n'était pas vraiment arrière-gauche, mais quand City perdait le ballon, il avait un peu ce rôle. Guardiola lui demandait de venir sur ce côté gauche-là. On l'a vu contre Arsenal en première période, par exemple, ça s'est très mal passé. Donc il a tenté plein de choses. Je pense que le positionnement de Stones, et là, Daniel, c'est pas simplement un dépassement de fonction contre le Real, il a joué milieu de terrain, tout simplement.
Absolument,
il n'allait plus du tout en défense centrale.
Bien sûr.
Ça permet à Guardiola, et on l'avait expliqué la dernière fois, on va pas répéter non plus ce qu'on avait fait la dernière fois sur le passage sur Guardiola,
non,
mais
j'aimerais
dans cette
en plus
recherche
qu'on prenne
du contrôle
pour parler de l'Inter quand même.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et juste dans cette recherche du contrôle absolu que Guardiola a toujours voulu finalement, je pense que cette configuration-là, ce qu'on verra samedi, il y a aucun doute là-dessus, qui finalement a 5 défenseurs et 5 attaquants, on va dire, entre guillemets, Gundogan, De Bruyne, les deux ailiers et Haaland, et après les 5 de derrière, lui offre cet équilibre parfait finalement. Et c'est pour ça qu'il l'a longtemps cherché, et c'est pour ça que je pense que cette équipe-là de City est la meilleure qu'il a eue depuis son arrivée à l'été 2016.
Pause, en fait, les gars. Je trouve que juste pour conclure, ce qui différencie Guardiola de beaucoup d'entraîneurs, c'est la capacité à oser et à répéter la prise de risque. Ce que disait Julien, c'est que parfois c'est juste ponctuel, parfois c'est quelque chose qu'il installe dans le temps si ça marche. Mais en fait, il y a tellement de réflexion, de travail cérébral par rapport à d'autres entraîneurs que parfois ça peut sembler trop. Mais moi, je préfère un entraîneur qui réfléchit trop qu'un entraîneur qui réfléchit pas assez.
Dans un instant, on continue le débat et comme promis, on va parler de l'entraîneur de la Juve, Allegri, toujours là.
Malgré l'Inter, hein, faut quand même savoir ce qu'ils vont opposer à City, même si on s'en doute un peu.
Malgré les ondes que lui envoie Yann Crochet depuis des années. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.